fremde Kulturen ins Rüebliland. Kompass. Jetzt auf Kanal K.
Hallo zusammen, Sie sind live in der Sendung Fans of Africa, eine afrikanische Politik- und Kultursendung. Heute Abend berichten wir über die Togolesen Diaspora-Kongress, die heute in Fribourg, Schweiz stattfinden. Wir haben viele Gäste im Studio. Am Mikrofon begleitet euch Sylvain Amos. Afrika. Bonsoir Lomé Cotonou, Abidjan, Accra, Libreville, Dakar, amis du continent noir. Bienvenue à l'espace Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K en Suisse. Ce soir, nous discuterons avec nos invités au studio de la réunion du Congrès mondial de la diaspora togolaise qui s'est tenue à Fribourg aujourd'hui. Il y a environ un an, se tenait à Bonn en Allemagne le tout premier congrès qui a vu la participation de plusieurs ressortissants togolais à l'étranger. Docteur Yves Kwe Amaizo, directeur du groupe Afrologie, membre du CMDT, il est également coordinateur provisoire de CVU Diaspora et Togo. Et il est également aussi un des participants de la réunion de Fribourg aujourd'hui et il nous fera le point sur les différents travaux qui ont eu lieu au cours de cette réunion de la diaspora togolaise. Nous ne manquerons pas aussi d'aborder avec Dr Yves Kwe Amaizo l'actualité politique au Togo, surtout le dialogue inclusif. Nous avons également trois autres invités qui vont se présenter d'ici quelques peu de temps. On va discuter aussi avec eux de la réunion du CMDT, Congrès mondial pour la diaspora togolaise. Pour vous conduire ce soir, Gisela Rossato à la supervision générale, Josué Maoli et Esteban Gagnon assurent la programmation musicale. Vous suivez peut-être sur l'Afrique au micro de Sylvain Amos. Également, amis fidèles auditeurs, encore une fois, bienvenue au programme et sans plus tarder, je pense que nous allons écouter tout de suite l'éditorial de ce soir sous la plume de Romain Koudjordi qui est déjà en ligne. Romain, bonsoir.
Bonsoir, cher confrère Amos. Bonsoir à tous les amis présents au studio.
Allô, Romain?
Oui.
Allez-y.
Sans plus tarder, je livre l'édito de ce soir. Révolution en Égypte. Barack Hussein Obama au pied du mur. Je sais qu'il y a eu des controverses sur la promotion de la démocratie pour une grande part en relation avec la guerre en Irak. Mais je serai très clair, aucune nation ne peut imposer à une autre un système de gouvernement. Mais cela ne minore pas mon engagement envers les gouvernements qui reflètent la volonté de leur peuple. Et chaque nation fait vivre ce principe à sa manière, enraciné dans ses traditions. L'Amérique ne prétend pas savoir ce qui est bon pour tout le monde. Mais je pense, sans aucune concession possible, que les gens souhaitent certaines choses. La possibilité de donner son avis sur la façon dont on est gouverné. La confiance en l'état de droit et une administration de la justice égale pour tous. Un gouvernement transparent qui ne vole pas son peuple. La liberté de choisir son style de vie. Ce ne sont pas seulement des idées américaines, mais des droits de l'homme. Et c'est pourquoi nous les soutiendrons partout. Excès du discours de Obama au Caire le 9 juin 2009. Deux semaines après le mouvement de contestation qui agite l'Égypte, le président américain Barack Obama se retrouve confronté à l'histoire. avec en toile de fond le spectre de la révolution iranienne. Ouvrons tous ensemble, chers amis fidèles, auditeurs, une fenêtre sur l'Afrique du Nord pour scruter les enjeux et les risques d'hégémonie islamiste qui se tissent en toile de fond. Téhéran, en 1979, Jimmy Carter, ex-président impérialiste américain, lasse le char et reste dans l'histoire comme le président américain qui a perdu l'Iran. Dans l'animosité de ce pays contre les Américains, deux années plus tard, il cède à la Maison Blanche à Ronald Reagan le cadeau empoisonné. Barack Obama est en face au même risque. Rester dans l'histoire comme le président qui aura perdu l'Égypte, pierre angulaire de l'influence américaine au Proche-Orient, emblème du monde arabe modéré contre Al-Qaïda, une désidérata de la démocratie qui s'exprime par la rue, qui jusqu'à présent n'a pas sa place au Caire, c'est-à-dire libéral et favorable à la paix avec Israël contre vents et marées, avec peut-être des conséquences incalculables pour résoudre une équation difficile de son parcours politique. L'équation égyptienne. L'équation de Obama est simple à exprimer, bien que beaucoup plus difficile à résoudre. Peut-on garder l'Égypte en lâchant Moubarak pour faire plaisir au peuple, ou encore peut-on avoir en Égypte la démocratie et la stabilité avec Moubarak? On serait tenté de répondre que le président américain n'a d'autre choix que de lâcher le régime égyptien, tant il est clair que les manifestations qui espèrent être des milliers et des milliers sur la place Tahrir, libération en arabe, au Caire ne lèveront pas le pied tant que le Raïs ne quittera pas le pouvoir. Le son de cloche tarde à être entendu par les Américains. Mais voilà la vérité. C'est la revendication presque unique du mouvement. Lâchez Moubarak donc. Mais cela ne serait être que la première étape. Le prérequis, en cas de démission de Moubarak, le vice-président Omar Suleiman prendrait alors logiquement la relève avec le soutien de l'armée, des milieux d'affaires des Américains, qui tireront encore les ficelles en sourdine des Israéliens, et aussi de tous les autres régimes arabes qui craignent une contagion des mouvements de protestation. Cela durera peut-être un temps, mais la tenue d'élections libres deviendra inévitable. Et Dieu sait ce qui peut en sortir. Mohamed El Baradei, ou bien un leader des frères musulmans, qui ont combattu assez longtemps Moubarak. Là, c'est le souvenir du Front islamique du salut, fils en Algérie, qui obsède. N'oublions pas que l'Égypte est un pays de 80 millions d'habitants qui tous ne partagent pas forcément les aspirations modernistes des Cariotes ou même des Alexandrines davantage influencées par l'islamisme. Dans les révolutions qui tournent mal, il y a toujours une première étape, celle durant laquelle les forces modérées jouent le premier rôle. Elles sont souvent balayées plus ou moins vite par des radicaux. C'est ce qui s'est passé avec la Révolution française et aussi en Iran en 1979. Obama, s'il perd son allié le plus docile dans l'Afrique du Nord, va avoir du mal à gérer le dossier israélien et l'invasion de l'Al-Qaïda qui trouble le sommeil des Américains. Déjà, sa proposition faite à Moubarak d'ouvrir incessamment une transition ne semble pas adoucir la rue qui parle d'un départ pur et simple du Raïs. Tout compte fait, Barack Hussein Obama doit savoir qu'il a la chance soit de rentrer dans l'histoire par la petite porte en mettant l'armée au-devant des aspirations populaires pour une récupération rapide de la situation au profit de sa diplomatie, soit de rentrer dans l'histoire par la grande porte en lâchant Moubarak au profit des aspirations profondes de la rue. La rue, celle qui parle aujourd'hui en Égypte, il s'est déjà exprimé en Tunisie il y a seulement quelques semaines. Obama, en sa qualité de démocrate, s'il en est un, doit savoir qu'aucune force, qu'aucune armée, aussi puissante soit-elle, ne peut briser l'élan, la dynamique et la force de la rue. La volonté populaire qui s'exprime aujourd'hui au Caire et dans la rue d'Alexandrie doit être entendue dans le monde et en l'occurrence à la Maison Blanche. Obama, en écoutant la rue au Caire, ne peut que grandir en tant qu'un président démocrate. Dans le cas contraire, l'histoire en jugera.
Thank you.
revolution. Intelligent revolution. Must be African education. We want a revolution. Young people revolution. Intelligent revolution. Must be black people education.
Go to school, brother, and learn what they are doing. It will open your eyes to the people's situation. Go to school, my brother. I said go to school. You will understand very soon all the problems of your nation.
We want a revolution. Young people revolution. Intelligent revolution. Must be African education.
In your mind, brother, there is the power to change the world. This understanding will help make a better place. In your hands, brother, there is the key to this continent. And if you don't unlock it soon, it will be lost to the government.
We want a revolution de Tikenja Fakoli. L'Afrique a besoin d'une révolution et une révolution jeune et intelligente à chanter. Je viens de le dire, Tikenja Fakoli. Notre correspondante Fabi Kwasi est déjà en ligne depuis Lomé pour le briefing de l'actualité togolaise. Fabi Kwasi, bonsoir.
Sylvain, bonsoir. Bonsoir à tous nos frères de la diaspora qui sont à tes côtés, aux auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique.
Oui, et
bonsoir,
Fabi Kwasi, merci de nous accompagner et merci aussi pour votre parfaite collaboration. Effectivement, vous suivez pour nous les manifestations du FRAC, Front Républicain pour la tenance sur le changement. Et ce front, évidemment, qui continue toujours la revendication de Jean-Pierre Fabre. Quelle a été l'influence aujourd'hui à Lomé, Fabi?
Oui, Sylvain, c'est reparti pour le FRAC en termes d'affluence. Le monde va en grandissant. Ils étaient des milliers, en tout cas, ce samedi à battre les pavés pour contester toujours la réélection de Fornia Simbé, mais aussi saluer le courage du peuple égyptien et se préparer les Togolais à faire de même. Laissez votre colère s'exprimer, laissez votre indignation. N'a cessé de marteler d'ailleurs le président du PSR, Abi Kessa. Mais avant cette mobilisation qui vient de donner quand même du baume au cœur aux adeptes de la stratégie de la rue, il y avait foule à Lomé à l'aéroport jeudi dernier. Là encore, ils étaient des milliers à accueillir le président de l'ANC, Jean-Pierre Fabre. Ce dernier, dans son adresse tout à l'heure à la plage, à cette grande foule, a dit merci aux Togolais qui lui ont réservé un accueil des plus chaleureux. Merci aussi à ces militants du FRAC qui, quoi qu'il advienne, sont devenus des inconditionnels des rendez-vous des samedis. Il n'a pas manqué de demander aux populations de rester mobilisées. Et sur sa tournée européenne, le président de l'ANC n'a pas voulu tout dévoiler. Il a rassuré néanmoins l'Assemblée que cette tournée a été un succès à 100%. Et ceux qui pensent qu'il ne peut pas accéder à certaines officines doivent se détromper. Il a rassuré par ailleurs que dans les premiers cercles de décision, la situation togolaise est sue et aucune personnalité n'a remis en cause le mouvement de contestation. Au contraire, ces personnalités sont admiratives du courage du peuple togolais qui conteste bientôt un an sans relâche l'élection de Fornia Simbé. Dans quelques semaines, Jean-Pierre Fabre sera en tournée dans le Togo profond. Tous les coins vont être sillonnés à laisser entendre le leader du FRAC et le leader de l'ANC.
Oui, Fabi Kwasi, aujourd'hui, il y a 6 ans, jour pour jour, le dictateur Fornia Simbé décédait. Et pour bon nombre de Togolais, c'est la libération togolaise et la fin de la violation des droits humains. Mais cela ne fut pas le cas. Fabi, que peut-on retenir de la politique togolaise après la mort d'Yadema?
Exactement 6 ans, vous venez à l'instant de me dire qu'Kofi Sama, Premier ministre, dans le temps, annonçait tout en pleurnichant ce qu'il a appelé lui-même la catastrophe nationale, autrement dit la mort d'Yadema, ce 5 février 2005, qui a vu le coup de force de l'armée qui a fait de forts députés, président de l'Assemblée nationale, puis président de la République en seulement quelques minutes, ce qui a suscité un tollé mondial. Et après le retour à l'ordre constitutionnel et la simulacre d'élection et son lot de 1000 morts qui ont permis à Fornia Simbé de écarter le fauteuil présidentiel. 6 ans après le décès d'Adhémon, le Togo continue sa descente aux enfers, avec toujours des élections entachées de fraude, les répressions aveugles des manifestations pacifiques, la violation systématique des droits de l'homme, le pillage, la gabégie au sommet de l'État, la cherté de la vie, l'absence d'infrastructures routières, sanitaires et autres. Les problèmes récurrents d'inondation sont le lot quotidien des Togolais qui peinent à avoir 2 ou 3 repas par jour. Pendant ce temps, les sultans de la République ont un train de vie à couper le souffle. 6 ans après, c'est une dizaine de Gnassingbé pour une ténébreuse affaire de coup d'État avec comme chef de file Patia Gnassingbé. 6 ans après, c'est des députés de la MC chassés de l'Assemblée selon le bon vouloir des princes de la République fort et Dulcris. 6 ans après, c'est des tentatives de dissolution de partis. 6 ans après, c'est l'enrichissement de jeunes pontes du pouvoir, civils comme militaires, qui ne cessent de narguer les paisibles citoyens. 6 ans après, c'est une véritable catastrophe, car le Togo ne s'est aussi mal porté. Et en ce 5 février 2011, Sylvain, tout le gotha du pouvoir, alliés et amis, sont à Cara pour, dit-on, se rappeler de l'illustre disparu. Et depuis jeudi, l'administration togolaise s'est vidée pour la bombance. 6 ans après, tous les prétextes sont toujours bons pour faire la fête. Après le 24 janvier, avec ce soi-disant attentat de Sarakawa, le 2 février, le soi-disant retour triomphal, c'est au tour du 5 février de voir des millions de francs CFA du contribuable togolais dilapidés avec la complicité d'un Sassou Nguesso, invité de cette prestige commémoration. Pendant ce temps, le Togo continue son séjour dans le coma. Ainsi va le Togo de Faure Gnassingbé, 6 ans après le décès de son père.
Oui, merci beaucoup Fabi Kouassi. Une dernière question. Le CMDT, Congrès mondial de la diaspora togolaise, est sur un autre volet de la lutte démocratique au Togo, encore organisé aujourd'hui à Fribourg en Suisse, et une réunion. Fabi, est-ce que vous qui êtes à Lomé, vous sentez quand même les actions ou le soutien du CMDT?
En tout cas, pour l'instant, c'est Canal K qui nous donne cette information. Et heureusement, comme l'émission est de temps à autre transcrite par la presse privée ici, nous espérons que l'info sera relayée la semaine prochaine. C'est l'occasion, en tout cas, pour la diaspora d'appeler les confrères d'ici, radio, presse, papier, pour des interviews et des articles. Je pense que les journalistes ne diront pas non. Mais vous savez, la diaspora, c'est une partie intégrante du pays. Et de ce fait, ils sont des citoyens comme nous avec les mêmes tares. C'est exactement l'image de cette opposition-là divisée. Aujourd'hui, nous avons une diaspora togolaise qui est divisée, qui manque également de stratégie comme notre opposition, et qui ne manque quand même aucune occasion de faire des reproches les plus acerbes à ceux qui sont sur le terrain. Il est temps quand même que tous les Togolais, y compris la diaspora, jouent leur partition au-delà des critiques que tout le monde se pose la question. Qu'est-ce que je fais pour mon pays? Si vous voulez plus concrètement, à l'image de la diaspora ici, c'est des gens qui font du MoneyGram, qui envoient par Western Union un peu de sous pour aider les familles à joindre les deux bouts. Mais c'est aussi des gens qui préfèrent construire de grosses villages, des terrains, mais financer la lutte, ce n'est pas le problème. Mais pourtant, eux comme nous rêvons d'un Togo autre, et malheureusement notre impression, c'est que la plus occidentale des diasporas africaines, elle est togolaise, celle qui pense qu'à sa famille, papa, maman et les enfants au street, dans le street sens du terme, et le reste, c'est le casier des soucis, quoi.
Fabi Kouassi, merci, et on se retrouve dans 2 semaines pour d'autres actualités politiques au Togo. Eh bien, nous allons recevoir tout de suite depuis Fribourg, Suisse, Dr Martin Amouzou. Il est le coordinateur général du CMDT. J'espère qu'il est déjà en ligne. Bonsoir, Dr Martin.
Bonsoir, Amos. Merci pour l'occasion que vous me donnez pour pouvoir m'exprimer après tout ce que je viens d'entendre de notre compatriote
Fabi Kouassi.
Fabi Kouassi. Mm-hmm. Bon, ben, vous savez, nous ne lui reprochons rien du tout. Ben, elle a décrit ce qu'elle ressent, effectivement, de la diaspora. Et ben, ce que je peux lui dire aujourd'hui, nous-mêmes, nous prenons conscience de notre éloignement à un moment donné des problèmes du Togo en tant que entité organisée, parce qu'elle a dit quand même, elle a reconnu qu'on envoie de l'argent individuellement. C'est cette solidarité primaire qui a fait quand même envoyer plus de 300 millions d'euros au Togo. Aujourd'hui, nous avons une autre démarche, nous organiser. Et c'est par l'organisation sérieuse et efficace que nous pourrons relever les défis qu'elle nous a brossés. Donc, je lui donne un rendez-vous pâtre pour longtemps et elle changera d'analyse sur la diaspora, l'avant.
Oui, justement, Dr Martin Amoussou, il y a un an, vous aviez organisé une grande réunion à Beaune. Mais aujourd'hui, selon certaines informations, l'influence est en diminution par rapport à Beaune. Est-ce que vous êtes déjà essoufflé, Dr Martin Amoussou?
Je répondrai sans embâche, non. Essoufflé pourquoi? Bon, il faut comparer ce qui est comparable. Beaune était le premier congrès. C'était un congrès. Donc, qu'on soit nombreux à Beaune au premier congrès, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on ne peut pas comparer les autres réunions que nous faisons. Nous sommes venus chez vous, à Fribourg, pour un bilan d'étape, une des missions qu'on nous a confiées. Tous les 6 mois, nous devons rendre compte de ce que nous avons fait. C'est-à-dire, le comité de pilotage qui a été mis sur pied à Beaune doit rendre compte de ses activités. Et depuis Beaune, ça fait 3 réunions du comité de pilotage que nous avons tenues. Et je vous dis plutôt l'impression que nous avons, ou la certitude, c'est que de plus en plus, s'en prend ancrage dans la diaspora togolaise.
Oui, docteur Martin Amoussou, vous venez d'organiser aussi une rencontre avec la diaspora, ici même à Fribourg en Suisse, vous venez de le dire. Quels sont vos sentiments et les grandes décisions qui sont sorties de cette réunion de ce soir, ou bien d'aujourd'hui? Ça a commencé depuis le matin.
Ça a commencé depuis le matin. Et les grandes décisions, comme je vous le dis dans ma première intervention, c'est une satisfaction déjà du travail que nous avons mené. Depuis ce matin jusqu'à ce soir, l'affluence grandit depuis les 3 bilans d'étape dont je vous ai parlé. Donc les grandes décisions que nous avons prises, c'est autour, puisque la thématique, nous avons dit le Togo, notre bien commun, il faudrait que chaque partie du Togo joue sa pétition. Fabi Kwasi l'a dit tout à l'heure, la diaspora, nous l'avons senti longtemps discriminée, se sent aujourd'hui partie intégrante de la société civile togolaise. Donc, nous allons, il nous manque bien sûr la communication, nous allons y remédier. Les grandes décisions que nous avons prises vont être affichés à tous. Notre mission, c'est mieux nous structurer pour être plus efficaces. Plus aucun Togolais de la diaspora ne doit plus se sentir seul où qu'il soit. Et nous prenons des décisions pas à la légère. Les moyens suivront pour que ces choses-là se mettent en place.
Oui, docteur Amoussou, le temps qui est contre nous, est-ce que vous avez à vos côtés, puisque vous êtes toujours sur le lieu de la réunion, est-ce que vous avez à vos côtés Franck Agbekponou, et qui est le responsable du CMDT en Suisse?
Vous venez de me donner l'occasion de remercier la communauté togolaise de Fribourg qui a accepté de mettre en place une coordination de notre mouvement. Malheureusement, Franck Agbekponou n'est pas là, mais je vous dis simplement que la mission du comité de pilotage du CMDT, c'est de mettre sur pied des coordinations dans tous les coins où se trouve la diaspora. Vous avez avec vous
trois de nos représentants qui vont vous donner plus de détails. Mmh. Et je vous remercie.
Merci beaucoup, docteur Amouzou. Je rappelle que vous êtes le coordinateur général du CMDT, Congrès mondial de la diaspora togolaise. J'espère que vous serez à l'écoute tout au long de cette émission depuis Fribourg. Bonsoir chez vous. Eh bien, nous allons maintenant revenir au studio avec nos invités. Rebonsoir à tout le monde.
Bonsoir.
Alors, nous allons tout de suite commencer par Dr Yves Ekwe Amaizo. Et vous êtes docteur en économie, directeur du groupe Afrologie et coordinateur provisoire du CVU, collectif pour la vérité des urnes. Vous avez participé aujourd'hui à Fribourg, à la réunion du Congrès mondial de la diaspora togolaise. Alors, quels sont vos sentiments ?
Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Je dirige en fait la partie internationale du CVU. Et donc le sentiment, il est très positif. Vous savez, ce que Dr Amouzou essaie de vous dire, quand une diaspora n'est pas organisée telle que tout le monde a l'impression de le dire sur la diaspora togolaise, vous devez quand même noter que nous sommes parmi peut-être les seuls dans toute l'Afrique à avoir un conseil mondial de la diaspora togolaise. Et donc pour arriver à coordonner des gens qui sont dispersés, qui est la définition même de la diaspora, cela prend un peu de temps. Et donc il faudrait que chaque individu dans la diaspora puisse prendre conscience qu'il a un rôle à jouer. Vous savez, quand nous organisons des invitations et des danses, la salle est toujours pleine. Quand nous invitons pour défendre les intérêts de la diaspora, elle est un peu moins pleine. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens se lèvent d'eux-mêmes pour soutenir, s'organiser, comme ici à Fribourg. Donc je pense que ce qui est peut-être mal perçu ou pas assez bien perçu au niveau de l'OME aujourd'hui est en mouvement. Il faut donner du temps. Une diaspora internationale a besoin d'organiser son identité, défendre ses propres intérêts vis-à-vis des pays hôtes dans lesquels nous sommes, avec beaucoup de problèmes que vous avez entendus sur les réfugiés, sur les papiers, etc., qui étaient discutés aujourd'hui. Puis un deuxième problème qui est notre représentation dans le pays. Vous savez que le Togo refuse systématiquement de recenser la diaspora togolaise. Vous savez que les partis politiques togolaises, pour la plupart, à part peut-être la NC maintenant, n'a pas vraiment une représentation dans la diaspora. Donc on a un vrai problème où ceux-là même qui devraient soutenir cette diaspora, mettre des budgets en place pour soutenir, ne le font pas. Et refusent en fait de nous recenser tout simplement. Donc il ne faut pas inverser la charge. C'est que puisqu'ils refusent, nous sommes obligés d'aller demander aux préfectures, aux entités officielles ici, le nombre que nous sommes. Et en nous comptant, nous organisons notre représentativité. Donc ceci, ça prend du temps. Et je crois qu'avec le temps, les gens vont commencer à prendre un peu plus d'intérêt à travailler avec nous.
Merci beaucoup. Et de l'autre côté, depuis Beaune, Romain est déjà en ligne. Romain, rebonsoir.
Oui, bonsoir.
Oui.
Je voudrais partager une réflexion avec le docteur Yves Ekwe Amaizo.
Oui, allez-y rapidement, Romain.
Tout de suite, dans votre logique, docteur Ekwe Amaizo, vous avez dit que quand vous invitez les gens de la diaspora à venir danser, la salle est pleine. Mais quant à une manifestation politique, elle est moins pleine. Est-ce que cela ne repose pas avec acuité la problématique même de la diaspora ? Comment expliquez-vous la diaspora ? Parce qu'en réalité, il y a des gens qui ont été poursuivis par le régime, qui sont arrivés ici en 90, qui constituent une force politique, et d'autres qui sont venus étudier, d'autres qui sont nés ici, qui constituent ensemble la diaspora. Est-ce que les intérêts sont les mêmes ?
Vous avez entièrement raison. Les intérêts sont justement pas les mêmes. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, et les intérêts sont même très individualistes. Je crois que c'est Fabi Kouassi qui l'a dit, que les gens s'occupent d'abord de leur famille, d'eux-mêmes. Bon, puis le reste, on verra. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a un vrai problème de prise de conscience collective. Il faut que nous ayons conscience que nous vivons en tant que Togolais, en tant qu'individus, que ce soit au Togo ou dans la diaspora, mais que nous vivons aussi en tant que groupe, et que pour être reconnus comme groupe, nous devons nous organiser. D'abord pour que la communauté d'accueil nous accepte, nous respecte, parce que vous savez qu'on a beaucoup de procès et qu'on est en train de faire en sorte que la voix des Noirs et des Africains et des Togolais en particulier soit écoutée. Vous savez maintenant qu'avec le changement au Togo, certains pays considèrent qu'il n'y a plus de problème au Togo. Donc, beaucoup des membres de la diaspora, par exemple dans la région d'Allemagne, sont en train d'être mis dehors parce qu'on estime qu'ils ne peuvent plus être réfugiés. Ce qui crée des problèmes énormes. Des gens ont des enfants, sont là, et nous sommes en train d'essayer de défendre ces cas-là. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont souvent des affaires privées qui ne sont pas vues. Mais vous avez entièrement raison, les intérêts sont sont différents. Mais je dois reconnaître qu'il y a une partie de cette diaspora-là qui s'en est sortie, qui a de l'argent, qui refuse systématiquement aussi de soutenir ses autres frères ou le mouvement de manière générale, il faut le dire.
Oui, et nous avons aussi au studio d'autres invités. Effectivement, nous avons Foli Gbetekpodar. Rebonsoir.
Bonsoir.
Et vous êtes aussi participant de ce congrès mondial de la diaspora togolaise. Et également, nous avons Monsieur Yves Ekwe Lakoussan. Rebonsoir.
Bonsoir, Sylvain.
Vous venez de Paris, de France ou de Lille?
De Lyon.
De Lyon.
De Lyon, oui.
Alors, vous avez aussi participé et aujourd'hui à ce congrès. Alors, quels sont vos sentiments? Qu'est-ce que vous attendez effectivement de ce congrès? D'abord, Foli et Podar, oui.
Merci, Sylvain Amos. Et permettez-moi d'abord de remercier Fabi.
Alors, c'est moi qui ne vous a pas présenté aux auditeurs. Hein. D'abord, je rappelle que vous êtes quand même du collectif des Togolais de Rhône à Alpes. Et également, et je pense que vous êtes chargé de la relation avec les associations à Paris. C'est ça?
Des associations dans la diaspora en général.
Donc, en général. Okay, allez-y.
Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Et mon remerciement, premièrement, va directement à Dr Amozou, qui met toute son énergie, son temps, pour organiser la diaspora togolaise. Aujourd'hui, depuis ce matin, à partir de 9h, nous nous sommes réunis à Fribourg pour faire le point sur la situation en ce qui concerne l'organisation de la diaspora togolaise. Nous travaillons avec le CMDT parce que nous considérons que le CMDT est une force qui puisse regrouper les Togolais au niveau de la diaspora, surtout pour sa neutralité politique, sa disponibilité à travailler avec toutes les forces capables de faire bouger ce régime. Ce qui est important, c'est d'abord de pouvoir regrouper les Togolais, essayer de construire une unité de la diaspora, de retrouver cette force qui puisse permettre à la diaspora togolaise de peser sur les décisions politiques sur le plan national au Togo. L'avenir de la diaspora en dépend. Sa représentativité aussi en dépend, et disons l'avenir du Togo en général en dépend. Je vous remercie pour le moment.
Oui, et puis notre compatriote Yves Ekwe Lakoussan.
Oui, j'aimerais d'abord faire un petit coup d'œil à notre ami l'éditorialiste qui parlait tout à l'heure.
Romain Koudadi. Il est toujours en ligne depuis Beaune. Hein,
ouais. Ah, s'il m'entend, je voulais juste dire par rapport à la situation égyptienne et tunisienne où il parlait effectivement du soutien ou non des pays occidentaux, je voudrais tout simplement dire que ça suffit. Il faudra que les gouvernements occidentaux cessent de soutenir indéfiniment les dictateurs, surtout dans les pays africains, qui, au lieu de mettre en place des méthodes de bonne gouvernance, le plus souvent s'accaparent des richesses de ces pays-là, et au même moment, ils sont toujours soutenus par les pays occidentaux. Pourquoi? Tout simplement parce que ces pays-là ont la peur que lorsqu'ils ne soutiennent pas ces dirigeants, c'est l'islamisme qui prend le pouvoir. Nous voulons tout simplement dire ce soir que ça suffit. Parce que dans nos pays, nous sommes tout à fait capables de distinguer et l'islamisme radical et l'islam tout court. Et surtout dans ces pays, je veux le dire également, qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout des radicaux, qui demandent tout simplement à manger à leur faim. Maintenant, sur le sujet du jour, notamment la réunion du collectif du Conseil mondial de la diaspora togolaise à Fribourg. C'est vrai, c'est un conseil qui s'est créé, ça fait à peu près un an et demi. Et comme le disait si bien notre ami Fabi Kouassi depuis Lomé, c'est vrai, c'est eux qui sont sur le terrain. Et c'est eux qui sont sur le terrain. Et c'est normal qu'ils nous disent que pour le moment, ils ne voient pas les actions que font la diaspora. Mais je voudrais tout simplement lui dire que ce n'est pas facile lorsqu'on crée une association ou une structure qui est appelée à réunir des gens qui sont sur des continents, qui sont dans des pays différents, des gens qui ont des problèmes aussi divers que variés. Parce que si vous êtes en Europe, franchement, si vous prenez par exemple 100 étrangers, notamment 100 Togolais, je vous assure que parmi ces 100 Togolais, vous avez des problèmes aussi divers que variés. Mais nous faisons tout, nous sommes en train de tout faire pour essayer d'avoir une force et que nous sommes sûrs que d'ici un petit moment, le Conseil mondial de la diaspora togolaise fera tout pour au moins commencer à amorcer les différentes étapes de nos solutions, notamment pour essayer de faire sortir le Togo de la crise que nous vivons.
Merci beaucoup, Monsieur Yves Ekoué Lakoussan. Avant de relancer encore une fois notre compatriote collaborateur de cette émission, Romain Koujadi depuis Beaune, nous avons aussi un quatrième invité, le grand frère Folipo. Et encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Et oui, son Kakalo.
Merci Sylvain.
Akbe. Et Fofo et Folipo, vous êtes aussi participants de cette réunion de la diaspora togolaise. Alors, quels sont vos sentiments?
Et d'abord, je tiens à remercier tous les participants et en particulier le docteur Amozo pour tout son dévouement. Et je tiens à remercier tous les responsables des mouvements citoyens togolais qui se sont activement impliqués dans ma libération quand je connaissais donc les moments difficiles durant mon arrestation au Togo. C'est pour moi également l'occasion de remercier toutes les bonnes volontés au Togo et au sein de la diaspora qui, de près ou de loin, ont œuvré pour ma libération sans condition. Pour revenir donc sur mes impressions ou mes sentiments concernant donc la réunion d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour moi une occasion de retrouvailles donc de la famille togolaise de la diaspora, c'est pour moi aussi un signe très palpable que des Togolais très déterminés pour la cause togolaise tiennent toujours debout et défendent toujours l'intérêt général et que cela vaut le coup d'être encouragé, d'être propagé et d'être répercuté plus intensément au Togo parce que beaucoup d'efforts sont faits par la diaspora togolaise sans que sur le terrain, les compatriotes restés au pays ne s'en rendent compte. Donc il est très, très essentiel que les efforts déployés au sein et autour du Conseil mondial de la diaspora togolaise soient de plus en plus reconnus sur le terrain au Togo.
Merci beaucoup, Fofo Folipo. Je ne sais pas si Romain Koudodi est toujours en ligne et s'il a des questions à soumettre à nos invités. Romain.
Évidemment, j'ai eu entendre tout à l'heure de la part de l'intervenant de Lille ou de la France que la diaspora est amenée de par sa nature ou son organigramme à être neutre, c'est-à-dire la neutralité de la diaspora. Et je ne suis pas sûr ou je ne partage pas cet avis. À partir du moment où nous avons vu dans le cadre palpable de l'arrestation de notre compatriote, M. Folipo, que Dr Amozo est allé sur le terrain, voilà encore ce qui pose le problème de la clarification de la diaspora. Est-ce que cette diaspora regroupe de par sa dimension plurielle, tous les Togolais qui ne partagent pas les mêmes intérêts, où il faut passer d'abord par cette diaspora qui revendique, par exemple, son droit au vote, des actes purement politiques et sa protection des citoyens de l'Europe qui sont exfiltrés et qui sont arrêtés au Togo. Voilà ce que nous entendons, par exemple, que la diaspora puisse commencer par faire et pour relancer le débat.
Oui, merci Romain. J'espère que M. Foli Pété Koudar du CTRA, collectif des Togolais de Rhône, et voudrait quand même répondre à cette question. Allez-y.
Je vais être bref. Et je voudrais dire à... C'est Romain, non? C'est à Romain Koudodi. Je voudrais dire à Romain Koudodi que la neutralité du CMDT est réelle. Effectivement, si Dr Amouzou s'était rendu à Lomé, c'est pour apporter le soutien de la diaspora togolaise à notre frère Foliko, qui a été incarcéré à la prison civile de Lomé dans les conditions que vous connaissez. Donc, le CMDT ne met pas de distinction entre les Togolais. Nous nous organisons pour apporter un soutien, que ce soit à tous les Togolais, toutes les Togolais qui se trouveront un jour dans une situation difficile, que ce soit au niveau de la diaspora ou sur le terrain. Merci.
Oui, je dois renforcer ce que dit mon frère et ami M. Koudar. Quand vous avez un pays qui garde en prison M. Sama de Redémar, alors que personne n'a porté plainte contre ce monsieur, qu'il a gagné tous ses procès, même en appel contre l'État togolais, et que l'État togolais, devant tous les jugements qu'il puisse avoir au Togo comme dans le monde, a complètement tort, ça veut dire que ce gouvernement est arbitraire. Et qu'une diaspora, devant l'arbitraire, la neutralité n'existe pas. Il n'existe que la vérité des urnes et la vérité des comptes que ce gouvernement ne peut pas saisir. Donc, il faut libérer l'ensemble des prisonniers. C'est le message même qu'ils ont donné à M. Foliko, que nous relayons aujourd'hui dans la diaspora. Qu'est-ce qu'ils ont fait que d'autre que de dire qu'ils veulent de la démocratie, qu'ils veulent de la liberté? On ne sait même pas pourquoi on ne les juge pas. Ils sont encore dans leur prison, ils ne mangent pas, on les frappe, on a entendu qu'il y a le sida qui circule. Qu'est-ce que fait ce gouvernement pour nous dire que on est là pour prendre des partis? Non, M. Romain, nous choisissons ce qui est la vérité. Il vous l'a dit, la neutralité, elle existe au sens noble du terme. La deuxième chose très importante qu'il faut garder en mémoire, mais qui est-ce qui refuse de compter la diaspora? Qui est-ce qui refuse de nous donner le droit d'être compté pour que les 315 millions que nous avons envoyés l'année passée, nous puissions l'organiser pour qu'ils puissent non seulement puissent manger à leur faim, mais qu'on crée de la richesse et qu'ils arrêtent de voler la richesse que nous, la diaspora, nous aidons à créer au Togo? Qu'est-ce qu'ils ont fait de la richesse du Togo? Ils sont 5% à manger toute la richesse du Togo et le reste sont en train d'être dans la misère dans ce pays. Vous voulez encore que je vous parle de neutralité avec des gens qui sont des voleurs? Il faut dire les mots exacts, nom de nom. Alors, il faut nous parler de vérité pour des gens qui essayent, devant Dieu et devant la paix que nous voulons pour ce peuple, faire en sorte que ce gouvernement comprenne que nous sommes faits pour travailler ensemble. Mais s'ils ne veulent pas et qu'ils ne veulent pas nous compter, nous dénombrer, mais nous allons nous compter nous-mêmes. Nous allons nous faire représenter nous-mêmes. Nul n'est prophète chez soi. C'est ici qu'on reconnaît la valeur de la diaspora. C'est ici qu'on voit la compétence des gens. Il faut voir le nombre de docteurs, d'ingénieurs, de savants qui avaient dans la salle aujourd'hui. Vous devez les écouter. C'est une diaspora. S'il était au Togo, nos routes, nos ponts, nos cannes à sucre seront transformées en sucre. Il faut, monsieur Romain, que vous revoyez votre façon de voir comment travaille la diaspora. Nous sommes du côté du peuple togolais.
Et là, c'était un bref aperçu et sur le Congrès mondial de la diaspora togolaise. Mais je pense que Romain est toujours en ligne. Romain?
Oui, évidemment.
Nous allons maintenant clore ce dossier de la diaspora parce qu'on a encore environ 15 minutes. Nous allons parler maintenant de l'actualité politique au Togo concernant le dialogue inclusif. Et tout de suite, la première question, je vais la poser à au docteur Yves Ekwe-Amaïso. Docteur Yves Ekwe-Amaïso, en conclusion de votre dernière déclaration, je cite, « Le dialogue inclusif n'est assurément pas la seule condition d'une sortie de crise. C'est un piège. Il faut un contrat exclusif pour refaire les élections propres. » Quelle différence y a-t-il donc entre le dialogue inclusif et le contrat exclusif que vous proposez, docteur Yves Ekwe-Amaïso?
La différence est très simple. Un dialogue, c'est des gens qui parlent les uns aux autres. Et on ne peut faire un dialogue que sur la base de la confiance. Ça fait 43 ans qu'on a fait un certain nombre de dialogues sur lesquels les conclusions de ces dialogues ne sont pas mises en œuvre, pour ne parler que de l'accord pour l'utile global de Ouaga. Donc, sur quelle base nous allons faire confiance à quelqu'un qui parle de dialogue, en nous souhaitant les fêtes de nouvelle année, sans l'avoir écrit sur un papier, pour qu'on sache de quoi parle-t-il exactement, dialogue avec qui, l'inclusif c'est qui, est-ce qu'il y a des gens qui sont exclus? Et s'il veut qu'on lui fasse confiance, qu'il le mette sur un papier. Donc nous disons, prenez un dialogue inclusif et transformez-le en contrat exclusif. C'est-à-dire que vous mettez sur papier ce que vous voulez discuter et ceux qui sont concernés vont venir au dialogue. D'ailleurs, je rappelle que ce dialogue ne concerne pas que les partis politiques. Les mouvements citoyens sont tous invités, dont la diaspora, qui est encore une fois exclue. Je ne parle même pas des femmes, parce que si je vais aller dans le détail des femmes, elles sont exclues de ce dialogue, encore une fois. Donc vous voyez, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui, pendant 43 ans, vous en dit des choses que les occidentaux appellent du vent. Donc, la première chose, mettons ça sur papier. Si ce n'est pas sur papier, donc sous forme de contrat, malheureusement, je crois quand même qu'il s'agit d'un piège. Et nous préférons, nous, la diaspora, qui alertons l'opinion, de dire au peuple togolais, en tout cas, on vous aura prévenu que nous allons vers un nouveau piège, essayer de ne plus vous faire avoir. Ça, c'est le premier élément. Il y a un deuxième élément très grave dedans. Si le peuple, on lui donnait la liberté de s'exprimer, si ceux qui font les mouvements de samedi ont le droit de circuler sur l'ensemble du territoire pour manifester qu'ils ne sont pas contents de la décision de 2005 et de 2010, et qu'au Togo, il y a deux présidents, et qu'on, par hasard, c'est en Côte d'Ivoire et en Égypte et en Tunisie qu'on reconnaît cela, mais au Togo, on ne le reconnaît pas, qu'on tape sur des gens dans la rue alors qu'ils ne font que défendre leur droit à la vérité des urnes, alors je ne sais pas de quel dialogue on va parler. Il y a un troisième point, le dialogue, ce n'est pas à sens unique. Regardez les routes de Togo, ce n'est pas à sens unique, c'est à double voie. Comment voulez-vous faire un dialogue à sens unique? Ce n'est pas un dialogue, c'est un monologue.
Évidemment, et Romain Koudjadji, vous avez encore quelques questions par rapport au dialogue inclusif.
Oui, docteur Ekwe-Amaïso, en même temps que vous revendiquez la vérité des urnes de l'élection présidentielle dernière, vous proposez un contrat exclusif pour refaire les élections. N'est-ce pas une contradiction?
Monsieur Romain, il faut nous expliquer où est-ce que vous voyez la contradiction. Ou bien la personne, et il faut dire le mot exact qui sied à cette situation, a usurpé sa place de président et a un autre président et le lui cède, c'est qu'apparemment il ne veut pas, et son groupe avec lui non plus, et l'armée non républicaine non plus. Alors, nous proposons une autre voie pacifique qui est la transition. Cette transition ne peut pas se faire aux conditions de ceux-là même qui sont venus trafiquer les chiffres. Donc, il faut qu'une discussion ait lieu de manière intelligible avec des gens sérieux, que nous le mettions sur la table. Je vous rappelle que le collectif pour la vérité des urnes, dans son ensemble, Togo comme la diaspora, a proposé un plan de sortie. Ce plan était juste un début pour que nous montrions notre bonne volonté pour aider. Le CVU n'était même pas directement intéressé, c'est seulement pour témoigner de la bonne volonté et des gens du Togo et de la diaspora. Ce plan a été nié par le gouvernement, c'est-à-dire que quand les expertises parlent, ce gouvernement est sourd. Et malheureusement maintenant, on nous dit qu'il n'est plus muet, qu'il veut faire un dialogue. Vous comprenez que la contradiction n'est pas de notre côté. Et la dernière chose qui est liée à votre question, mais si les gens sont sérieux, mais ce n'est pas compliqué de mettre sur un papier que tout le peuple togolais puisse lire. Pourquoi on ne veut pas compter la diaspora? Parce qu'on ne veut pas que la diaspora parle. Heureusement qu'il y a quelques gens qui ont fait de l'Internet qui permet encore qu'on puisse écrire, que les gens lisent. Vous savez le nombre de gens qui prennent nos documents et le lisent et le transmettent dans les chancelleries, et les chancelleries téléphonent maintenant pour faire pression sur ce gouvernement.
Je vous réitère encore une fois, le problème n'est pas de notre côté. Vos questions, il va falloir les amener vers des gens. Ça fait longtemps qu'on nous parle de comité vérité, justice. Mais c'en est où ces justices? Monsieur Philippot est là. Regardez sa peau. Regardez ses cheveux. Ils sont devenus blancs à cause de qui? C'est pas la diaspora togolaise qui a fait ça. Mais écoutez, il faut revenir aux simples choses que Dieu a créées.
Eh bien, évidemment, nous sommes toujours sur le dialogue inclusif au Togo et nous avons encore 10 minutes, mais bien avant de relancer encore Romain, j'espère que Yves Eko et Lacoussin ont quelque chose à dire.
Non, je voulais tout simplement rebondir sur ce que disait grand frère Yves Eko Amaïzo. Je voulais savoir, juste depuis les années 90, est-ce que nous pouvons compter le nombre de dialogues qui a été initié dans le cadre de cette crise politique que vit le Togo depuis au moins 20 ans? Je voulais également savoir, entre les gouvernements successifs du parti RPT, je m'explique, le Rassemblement du Peuple Togolais, et en face, les partis politiques d'opposition que nous avons, quoi qu'on dise sur ces partis-là, je voudrais poser la question de savoir qui manque réellement de volonté politique pour régler la crise togolaise. Nous devons savoir, franchement, il faut le dire, c'est eux qui sont au gouvernement, c'est eux qui sont, au pilotage de ce pays-là. Et s'il y a aujourd'hui une question à poser, c'est à eux. S'il y a un problème aujourd'hui au Togo, s'il y a une volonté politique qui manque, c'est le RPT. Appelons un chat, un chat.
Merci beaucoup. Avant de finir cette émission, nous avons encore 9 minutes. La toute dernière question à M. Yves Eke Amaïzo. Que vous inspire la révolution en Tunisie, en Égypte? Et pourquoi la révolution, si on pouvait le dire comme ça, du 5 octobre 90, n'a-t-elle pas connu de succès ou de réussite?
Vous savez, votre réponse, elle est relativement simple. Si vous croyez qu'il y a une différence entre le peuple tunisien, le peuple égyptien, le peuple même ivoirien, ou le peuple togolais, non. Ce sont des peuples qui cherchent simplement à comprendre deux choses. Dans les années 60, on est sorti de la colonie. Et l'occidental a mis à la place. Au lieu de mettre, pour dire trivialement les choses, un blanc, ils ont mis un noir qui travaille pour le blanc. On est donc en sous-traitance, ce qu'on appelle la post-colonie. Le Togo est en post-colonie. La Tunisie était en post-colonie. La Côte d'Ivoire a failli l'être. Et l'Égypte, maintenant, se bat pour essayer de retrouver quoi? Son indépendance. L'indépendance culturelle, intellectuelle. Nous sommes d'abord des Togolais. Nous ne sommes pas gérés par quelqu'un de l'extérieur. Donc, il y a des individus qui ont trouvé plus facile de prendre ce pouvoir et de travailler pour une autre cause, pour les intérêts d'un autre pays. Surtout quand il y a des matières premières. La diaspora togolaise ne dit pas ça, au contraire. Nous disons que faisons en sorte qu'au moins la vérité des urnes sorte. Et par la même occasion, la vérité des comptes. Parce que je vous dis encore que 5% mangent tout au Togo. Ils mangent tellement tout, ils ont grossi aussi. Deuxième point très important dans ce que vous dites, il est très important aussi que quand on compare les pays Tunisie ou Togo, vous parlez de révolution, c'est un droit à l'autodétermination. La différence fondamentale en Tunisie, c'est que les militaires républicains ont refusé de tuer et de tirer et de frapper leur peuple et de les mettre en prison comme ils ont mis Folikpo. Ceux du Togo, parce qu'ils ont voulu manger, parce qu'ils ont des intérêts, parce qu'ils ont des choses à protéger, ils ont décidé de battre leur population. Est-ce que ce sont des gens normaux? Et ce ne sont pas des gens qu'il faut mettre peut-être dans des asiles pour les soigner. Ils sont malades.
Eh bien, nous allons finir cette émission dans 7 minutes. Mais je donne aussi toute la parole à M. Foli Gbetekoudar pour conclure tout de suite. Vous avez une minute.
Je vais conclure effectivement. Je veux remercier M. Sylvain Amos par l'intermédiaire de votre radio, nous avons communiqué. Merci beaucoup.
Mais c'est nous qui vous remercions parce que vous avez fait le déplacement depuis Lille et jusqu'à Fribourg, à Arro. Et c'est quand même beaucoup de
Lyon, ouais.
Depuis Lyon, et surtout Lyon, à Fribourg et aussi à Arro, c'est beaucoup de kilomètres. Alors, si le grand frère Folikpo a quelque chose pour conclure tout de suite.
Merci Sylvain. Et encore une fois, merci à tous les participants de cette rencontre d'aujourd'hui à Fribourg. Et je tiens seulement à souligner aux uns et aux autres que c'est maintenant que la lutte patriotique pour le Togo a commencé pour nous autres. Encore une fois, merci.
Merci, Tonton Foliko. Oui, et la Koussan.
Je voulais tout simplement dire en guise de mot de fin, merci pour cette fenêtre que vous nous avez ouverte pour nous faire entendre par l'intermédiaire de votre radio. Mm-hmm. Que tous les Togolais sur les cinq continents se saisissent de cette structure que nous appelons aujourd'hui le Conseil mondial de la diaspora pour le bien du Togo. Merci.
Merci beaucoup, et docteur Yves Kouyamaïso.
Moi, je crois souvent que le peuple togolais dans la diaspora comme au Togo a tendance à perdre patience. Nous sommes dans un marathon. C'est un marathon démocratique. C'est un marathon pour la liberté et l'autodétermination. Ne nous fixons pas des dates. Fixons-nous que les principes doivent être respectés. Les partis politiques d'opposition, comme ceux qui sont au pouvoir, doivent faire de la démocratie. Ils ne le font pas. Voici le vrai message de la diaspora. Et il faut continuer seulement ce mouvement. Les Tunisiens l'ont fait. Il y a un deuxième élément qu'on n'a pas indiqué ici. Vous savez, le niveau intellectuel des Tunisiens, c'est très élevé. Comment voulez-vous qu'un niveau intellectuel élevé, des gens dont le niveau ne suit plus, puisse encore vous gérer ? Voilà encore un deuxième problème. Donc vous savez, le peuple togolais, ce que j'ai vu en tout cas ici à Fribourg, tous ces grands intellectuels, tous ces grands experts, on a vu des gens dans la boulangerie qui savent très bien faire. Si ces gens étaient au Togo, vous allez voir, les choses iront mieux. Donc, faisons en sorte que chacun participe au marathon démocratique.
En tout cas, merci à vous tous qui étiez en studio avec nous, et Dr Yves Ekwe-Amaïso. Et je rappelle à nos fidèles auditeurs que vous avez publié votre dernier ouvrage intitulé « Crise financière mondiale, des réponses alternatives de l'Afrique » à l'édition Menahubuc, c'est ça. Donc, si vous êtes à l'écoute, vous pouvez quand même aller sur l'Internet et vous taper Yves Ekwe-Amaïso, « Crise financière mondiale, des réponses alternatives pour l'Afrique. » Encore une fois, merci d'avoir été en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Vous pouvez encore dès demain réécouter cette émission sur www.togocity.com, ici lomé.com, fmliberté.com et évidemment www.cvu-togo-diaspora. Merci encore une fois et à toute la diaspora togolaise qui était en notre compagnie. Collaboration parfaite, Fabi Kouassi depuis Lomé, Romain Koudouati depuis Beaune et Josué Maoli, Esteban Gagnon. Au micro, c'était Sylvain Amos.
Togo vivo, mia nyabe, benotu eto.